Ora soia, ora soia, ora soia.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais, vous êtes dans votre émission Les droits des étrangers, surtout. Cette émission aborde les sujets de la procédure d'asile en France. Et c'est en général, mais particulièrement en France, parce que chaque pays applique les lois de son pays, les lois migratoires de son pays. Aujourd'hui, le thème, c'est la phase OFRAI CNDA. On va aller jusque un peu loin parce que c'est une phase, une partie importante pour toutes les personnes demandeuses d'asile. Surtout que c'est le moment idéal, le moment important pour les demandeurs d'asile quand il s'agit de la procédure normale ou accélérée, ou de l'entretien ou de la préparation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile. L'OFPRA, c'est l'Office français de la protection des réfugiés apatrides. C'est c'est le seul institut qui examine en première position d'abord la procédure ou la demande d'asile présentée par toute personne qui a déposé l'asile en France. Une fois que la préfecture vous remet le dossier OFPRA, vous avez 21 jours à remplir le dossier, envoyer ce dossier à recommander parce que c'est toujours marqué dessus à l'OFPRA. Cette partie, c'est la plus importante parce qu'il s'agit de relater tous les faits qui vous ont poussé à quitter chez vous. D'abord, le dossier OFPRA, toute partie est importante, du début jusqu'à la fin. Qu'il soit les informations personnelles, les informations de votre famille, de vos enfants, de vos frères et sœurs, et aussi de votre parcours. Toutes ces informations sont toutes importantes. Quand il s'agit de vos informations personnelles, faites beaucoup attention parce que ça pourra vous causer des préjudices, par exemple, si vous faites une erreur ou par exemple le nom est mal écrit ou vous vous trompez de votre date de naissance ou d'une information personnelle de vous, rattraper ce coup, c'est très galère. Quand il s'agit aussi des informations familiales, tout ce qui concerne de vos parents, père, mère, frères et sœurs, faites beaucoup attention parce qu'une fois que vous êtes protégé, pour la réunification familiale, faire venir ces personnes, il faudra que toutes les informations que vous avez données à l'OFPRA, que ces informations soient correctes, parce que personne ne pourra utiliser ces informations ou bien dire que vous êtes trompé. Pour rattraper, il faut faire le recours au tribunal qui se trouve à Nantes. Ça mettra du temps à venir. C'est pourquoi en remplissant le dossier OFPRA, faites beaucoup attention, soyez très concentré et rappelez-vous, souvenez-vous de toutes les informations. Si vous ne connaissez pas la date exacte d'une personne, la date de naissance exacte d'une personne, si vous connaissez l'année, vous pouvez mettre l'année. Là, c'est plus simple. La personne, si elle vient avec, c'est elle qui sait maintenant quel jour il est né, quel mois elle est née. S'il s'agit de vos enfants, parce qu'il y a différentes parties, par exemple, vous êtes demandé, vous serez amené à vous demander l'union antérieure. Par exemple, si vous étiez marié dans votre pays, ou bien si vous avez eu des enfants dans votre pays, que ces enfants soient nés dans le mariage ou en dehors du mariage, peu importe. Si vous souhaitez, vous pensez donner ces informations, je pense que il faudra donner l'information correcte. Et si il s'agit de l'union actuelle, de l'information actuelle, que ce soit votre ethnie, votre religion, votre niveau d'études, beaucoup de personnes pensent que quand je dis je suis allé à l'école dans mon pays, me causera beaucoup de préjudice. Non. Je pense qu'ils veulent aussi quelqu'un qui a été à l'école, qui sait lire et écrire et qui... Ça, quelqu'un qui a été à l'école, la personne apportera beaucoup plus pour eux que quelqu'un qui n'a pas, une personne qui n'a pas été à l'école. S'il s'agit maintenant de la rédaction du récit OFPRA, c'est le plus important parce que c'est dit dans le dossier V. Exposé dans un récit synthétique, c'est que le récit doit être résumé, précis, compréhensif, bien détaillé, cohérent et qui suit toutes les ordres chronologiques. Si par exemple, c'est que votre récit doit être un film, même si c'est un film fictif, mais il faudra que, une fois que la personne relit votre récit, que cette personne voit directement l'image de votre vie, le parcours, comment ça s'est passé de votre enfance jusqu'au jour où vous avez décidé de quitter chez vous. La première partie, il s'agit de parler de vous présenter. Quand on dit souvent, sachez que quand tu viens dans un pays, qui est différent de ton pays, les cultures, les comportements, les manières de parler, l'habitude des gens, la manière d'habillement, c'est que c'est différent. Par exemple, quand vous venez dans un continent africain, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes attitudes que le continent européen. C'est pourquoi, pendant la procédure asile, il faudra que l'intégration aussi commence par là. Essayez de vous intégrer, de prendre, pas de changer votre habitude, mais d'essayer de vous adapter à la vie du pays que, où vous résidez, vous viviez. Parce que tu ne peux pas être en France et puis tu dis encore tu vis toujours à l'africaine. Tu ne dois pas oublier tes origines, mais aussi l'intégration. Je pense que si tu es en France, il faudra que tu arrives à tisser une bonne relation avec les gens qui sont autour de toi et puis dire que moi je suis là, je vais obligatoirement faire ça parce que je viens de tel pays, comme ça, non. Dans le récit, les choses à ne pas dire, c'est que le récit doit être personnel. Il ne doit pas parler sur la situation générale de ta famille. Par exemple, tu dis que moi, ma famille, elle est pauvre, c'est pourquoi j'ai décidé de partir, ou bien ma famille, il y a une malentente entre ma famille, les membres de ma famille, c'est pourquoi j'ai décidé de partir. Ou bien, par exemple, ma mère ne s'entend pas avec ses co-épouses, ou bien ma mère ne s'entend pas avec mon père, ou bien je ne m'entends pas avec... Non, le récit doit être personnel. C'est pourquoi il demande toujours de donner le motif pendant la rédaction et aussi le jour de l'entretien. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous a donné l'idée de partir? C'est ça le motif. Le motif, par exemple, aujourd'hui, le matin, tu te réveilles, tu dis, je vais manger telle sauce ou tel plat, comme ça, comme ça. Vous avez ça en tête. Pourquoi vous voulez manger cela? C'est ça qu'il faut donner. Pourquoi vous avez décidé de partir chez vous? Parce que votre vie est menacée à cause de vos opinions politiques. Parce que vous soutenez un parti politique que vos membres de famille ne veulent pas que vous soutenez ce parti. Parce que vous n'avez pas le droit, le choix de pratiquer une religion qui n'est pas le choix de votre famille, par exemple. Ou vous êtes dans un groupe social, par exemple vous êtes LGBT, lesbienne, peu importe. Ou vous avez d'autres problèmes qui sont liés aussi à votre race. Parce que la personne qui recevra votre dossier à l'OFPRA, il faudra que cette personne, cet officier, arrive à bien comprendre le récit, voir réellement est-ce que cette personne a bien besoin d'une protection. Que maintenant, que cette protection soit réfugié, le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, non. Il faudra que la personne, l'officier de protection, arrive à bien comprendre, l'urgence de votre situation. Si vous êtes dans l'urgence que vous devez avoir votre statut, là, le récit doit parler de ça. Et sachez qu'il n'y a pas assez d'importance aussi au récit écrit. Dire que voilà, comme j'ai écrit mon récit, ils vont prendre beaucoup d'importance et apporter beaucoup d'attention. Non. Le récit donne juste l'attention, attire l'attention de la personne afin que cet officier puisse vous convoquer. Parce que on en a vu ici, la loi, elle dit... Pendant la procédure normale, tout doit être réglé en 9 mois. Vous devez être convoqué, vous devez avoir votre décision. Si elle est positive, tant mieux. Si elle est négative, faire le recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Voilà. Mais tel n'est pas le cas. Il se peut que vous envoyez votre récit à l'OFRA et qu'ils mettent du temps encore à vous convoquer. C'est par exemple, si vous êtes un patron, un recruteur, vous aurez des milliers de CV, vous vous intéressez que le CV ou les CV qui répondent à vos besoins ou aux besoins du métier que vous du poste. Tu peux pas recruter quelqu'un, tu as besoin d'un électricien, tu recrutes un mécanicien à la place d'un électricien, non. Eux aussi, ils ont plusieurs dossiers, ils vont essayer de voir l'urgence. Quels sont les dossiers, les personnes prioritaires qui ont besoin de la protection ou pas. Voilà. Pendant la rédaction aussi, il faudra penser à bien donner toutes les informations. Parler de vous, les problèmes doivent être aussi bien clairs. Parce que si vous écrivez, vous donnez un problème ou une problématique, par exemple, et que vous sachiez que cette problématique est déjà finie. Par exemple, je prends l'exemple actuel sur les Guinéens, par exemple, ceux qui prennent la politique. Il ne faudra pas penser que surtout les réexamens, on en a beaucoup reçu ces derniers temps. Ceux qui sont en phase de réexamen, dire que voilà, comme moi j'ai pris la politique, j'ai demandé l'asile politique et il y a la transition en Guinée, est-ce que ça va marcher ou bien j'ai ma procédure normale, est-ce que ça peut marcher? Oui, bien sûr, parce que les coups d'État, il n'y a pas une stabilité politique. Il n'y a pas une stabilité politique. Mais si vous prenez, par exemple, si votre récit, votre problème qui vous a fait quitter chez vous parle d'un parti politique, il faudra que vous ayez toutes les informations sur ce parti. Pourquoi vous avez décidé de soutenir ce parti? Quels étaient vos rôles? Comment vous faisiez? Comment vous soutenez? Comment vous apportez vos soutiens ou votre soutien à ce parti? Quelles sont les différentes organisations de ce parti? Comment ce parti se manifeste dans votre secteur, dans votre quartier? Est-ce que vous participiez ou vous avez participé à des grandes manifestations organisées par ce parti? Est-ce que vous organisez ou faites aussi partie des organisateurs des différentes actions de ce parti? Il ne faudra pas dire que, par exemple, moi, je suis dans ce parti, mais je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se passe. Ou tu ne connais pas les différents chefs des différentes sections de ton parti. Non. Il faudra aussi que tu arrives à connaître, à bien connaître le projet de société de ce parti. Parce que tu ne peux pas soutenir un parti, tu ne peux pas faire un métier pour juste quelqu'un t'a dit ce métier-là est très bon, il y a du travail. Et toi, tu dis, bah, voilà, moi, je vais soutenir ce parti. Non, ce n'est pas comme ça. Il faudra que tu aies un objectif, tu vois réellement ce parti. Il peut changer quelque chose. Pour toi, c'est le meilleur parti. Mais pourquoi il est le meilleur parti? C'est le projet de société qui définit cela. Et pourquoi tu as choisi ce parti au dépend des autres partis? C'est ça qu'il faut savoir. Et puis, concernant les dates aussi, il faudra bien réfléchir les dates que vous donnez. Par exemple, quand vous quittez chez vous, vous aviez 16 ans, même si c'est un parti politique que vous soutenez. À 16 ans, vous ne pourrez jamais être un militant. Vous pouvez être un sympathisant, mais c'est en aucun cas un enfant, un mineur ne peut être un militant. Mais par contre, vous êtes un sympathisant. Il faudra avoir cette différence ou cette vision pendant la rédaction. Vous avez quitté chez vous, vous avez 16 ans, malgré que c'est le fait que parce que vous soutenez ce parti et que vous avez décidé de partir, vous avez eu des persécutions à cause de ce parti. Mais un mineur, en aucun cas, il ne peut être un militant. Un sympathisant, bien sûr, c'est possible. Ça, il faudra que vous ayez ça en tête. Et quand vous parlez des problématiques, sachez qu'il y a des problèmes que les mineurs ne pourront jamais en avoir. C'est ça qui fait aujourd'hui que beaucoup arrivent, même si leur récit est vrai, mais ils ne peuvent pas bien expliquer, donner des raisons pour ou montrer que le récit qu'ils racontent est bien vrai. C'est ça le problème. Parce que eux, ils prennent compte beaucoup sur l'apparence et aussi sur l'âge. Si tu venais, vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils savent que toutes sortes de problèmes peuvent vous arriver. Mais si vous arrivez, vous avez 16 ans ou vous avez quitté chez vous, vous avez 15, 16, 17, vous arrivez en Europe, vous avez 18 ans et que vous parlez d'un problème ou d'une problématique, sachez que ce n'est pas le jour où vous avez quitté chez vous qui compte. Quand les problèmes ont commencé, c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut savoir encore. Si vous étiez chez vous, par exemple, les problèmes, même une seule journée, ça peut arriver et vous décidez, vous partez. Si vous ne partez pas, vous perdez votre vie. Même une seule journée de problème, ça peut vous coûter la vie. Il ne faut pas dire que les problèmes doivent être perdurés, avoir beaucoup de... Non. Même une seule journée ou un seul problème, en une minute, si vous ne vous cachez pas, vous protégez pas, il n'y a personne qui peut vous protéger, vous pouvez perdre votre vie. Ça peut arriver. Il ne faut pas dire que ou bien penser que le problème doit être duré pendant un an ou bien deux ans, trois ans ou bien dix ans, non. Pour les femmes aussi, il y a une chose aussi, il ne faut pas dire que moi j'arrive, je change d'avis parce que ma collègue ou ma camarade ou bien mon camarade, il a fait ça, non. sachez que quand vous arrivez, le bon moment pour vous, c'est il faut préparer, aller vers les personnes, écrire vos récits à temps, donner à des personnes compétentes qui ont, parce que il faudra pas penser que toutes les personnes qui s'occupent de l'asile ou bien des différentes associations ont plus d'expérience dans dans la procédure. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui a l'expérience sur la rédaction de récits, et c'est une question de chance aussi. Il se peut que tes problèmes, c'est des vrais problèmes, mes problèmes, c'est des faux problèmes. J'arrive à bien m'expliquer et puis je réussis. C'est une question de chance, mais c'est une question d'éloquence aussi. Il faudra connaître, savoir que eux, ils veulent des détails. C'est pourquoi pendant la rédaction du récit, il ne faudra pas donner tous les détails. Mais il faut être précis, donner le nom de toutes les personnes qui t'ont aidé ou bien qui t'ont fait du mal. Si moi je t'ai fait du mal, il ne faudra pas dire que cette personne ou il y a des inconnus qui sont venus et j'ai été attaqué par des inconnus. Non. Si tu sais que tu as un problème avec moi, tu dois connaître normalement, en réalité, si quelque chose t'arrive là-bas, même si tu ne connais pas les auteurs, mais sache que ce problème vient de moi. Parce que tu sais qu'il y a un problème entre toi et moi, je peux ordonner mes amis, mes frères, mes soeurs à venir te faire du mal. Si tu connais personne de ma famille, mais tu connais mon nom, dis-toi que ouais, les personnes qui t'ont attaqué, je peux faire partie de ces personnes, de ces inconnus. Mais pour eux, dire que ce jour j'ai été attaqué par des inconnus, cagoulé, ainsi de suite, comme ça, ils savent que ça arrive. Mais si tu sais qu'il y a un problème entre toi et les autorités, c'est l'autorité qui te fait du mal. Si tu sais que tu as un problème avec un individu, sache que personne, si tu n'as aucun problème avec moi en aucun cas je m'apprendrai en toi ou je te ferai quelque chose. Non, c'est impossible. Mais la seule problématique ou la seule chose qui fait la différence, quand on arrive, on ne cherche pas à s'informer, on ne cherche pas à avoir des informations sur comment et cette procédure marche. On reste dans nos coins, on se dit il faut attendre, ou quand tu demandes quelqu'un, il te dit non, pour l'instant tu es en procédure Dublin, il n'y a aucun risque. Non, on se dit en chenon que au moment où le fer est rougi, c'est à ce moment là qu'il est temps et où il serait bien de taper, de transformer le fer. Mais si tu attends que le jour J, tu te prépares, le combat ne se prépare jamais le jour J. Il faut toujours être prêt. C'est ça pendant la rédaction. Il faudra aussi, dans la rédaction, la grande partie, ça sera, comme on le dit, ça sera le corps du devoir, le développement. Donner le maximum d'informations, de détails dans ton développement. Pourquoi ça s'est arrivé, pourquoi toi, et comment ça s'est arrivé, quand est-ce que ça s'est arrivé, et pourquoi tu n'as pas pu te sauver, pourquoi tes membres de famille de ton, ne pourront pas te protéger ou n'ont pas pu te protéger, ou pourquoi les autorités de ton pays ne pouvaient pas ou n'ont pas voulu te protéger. C'est ça qui fait la différence. Par exemple, il y a des pays africains, s'il y a un problème entre les membres de famille, ton père peut t'emprisonner, peut te faire n'importe quoi, les autorités, ils s'en battent les couilles, ils viennent pas. Ils peuvent pas, ils se mêlent pas dans les différents problèmes ou les conflits familiaux. Mais par contre, s'il y a un problème entre les autorités, toi et tes autorités, et les autorités de ton pays, sache que les membres de famille aussi n'ont aucun pouvoir, ne pourront pas avoir de l'influence, te protéger. Mais c'est à toi de pouvoir définir, expliquer, montrer que tu ne pouvais pas te protéger. Tu étais abandonné, tu étais menacé, tu étais en danger. C'est ça qu'ils veulent savoir. Quand vous arrivez encore et que vous savez que, sachez que si le récit parle ou le récit donne l'image du statut de réfugié, là il n'y a pas, on ne peut pas dire que si vous en avez, oui, mais il n'y a pas une urgence de dire qu'il faut prouver, il faut montrer. Un réfugié ne prouve jamais qu'il y ait, voilà les problèmes. Le réfugié, les détails suffisent et puis ça passe. Mais par contre, la protection subsidiaire, il faudra prouver que réellement, la protection subsidiaire, par exemple, si tu as un problème, c'est l'héritage. Il faut prouver pourquoi, sur quel héritage les problèmes ont survenu. Par exemple, si c'est à cause du bien de tes parents, ou bien si c'est à cause parce que tu as suivi une fille comme ça et tu voulais te marier avec quelqu'un. Et voilà, il faudra prouver que réellement tu as un problème chez toi. La protection subsidiaire, il faut prouver. Si tu ne prouves pas, je pense que ça va être compliqué pour toi de d'avoir ta protection. C'est pas seulement les détails qui te suffiront là-bas. C'est la preuve aussi. Mais par contre, si le statut, ton récit parle de la politique, parle de la religion, du fait que vous êtes un groupe social, ces genres de problèmes, ces genres de persécutions, je pense que tu n'as pas besoin de prouver réellement que moi, voilà, j'étais musulman, j'ai voulu changer, on m'a fait ça, non. Là, il faudra que si, par exemple, ton problème, c'est la religion. On prend un exemple sur ça. Toi, tu étais chrétien ou bien tu étais musulman, mais tu n'as pas voulu pratiquer cette religion et ta famille t'a imposé. Là, il faudra que tu arrives à donner les preuves, par exemple, ou par exemple, si tu as lu le Coran, tu as lu la Bible. Pourquoi, pour toi, la religion, elle n'est pas vraie? Pourquoi toi, tu ne voulais pas pratiquer cette religion? Il faudra que tu arrives à les convaincre, montrer réellement que voilà, moi je ne voulais pas pratiquer la religion musulmane parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou je ne voulais pas pratiquer la religion chrétienne parce que c'est ça qui est dit, mais c'est pas ça qui est pratiqué. Là, tu n'as pas besoin de dire voilà le témoignage d'un ami, d'un frère, moi j'étais pas, je voulais pas faire ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Non. Tu as juste besoin de donner, s'il y a des passages, par exemple, dans la Bible, dans le Coran, tu donnes ces passages en disant, voilà, moi, pour moi, la religion, c'était comme ça. Ils peuvent te demander de définir pour toi, toi, comment tu vois la religion. Si c'est le parti politique, par exemple, pourquoi tu as choisi, je prends l'exemple en Guinée, par exemple, pourquoi tu as choisi l'UFDG ou le RPG, ou dépend de l'UFDG, du PDN, de PADES, de différents partis. Il faudra que tu prouves, voilà, le projet de société de RPG ou le projet de société de l'UFDG ou de PADES, de PDN, est bien plus intéressant pour la Guinée, pour le développement de la Guinée que ça. Mais encore, par exemple, si tu luttes contre un régime, un pouvoir en place, tu ne luttes pas contre la personne, mais tu luttes contre le système, tu combats le système. Il faudra que tu arrives à prouver que voilà, le système qu'il a mis en place, ce système n'est pas favorable pour ton pays, c'est pourquoi toi tu as lutté. Et en fin de ta rédaction, il faudra que tu prouves encore que réellement, toujours, parce que quand tu arrives, admettons que tu arrives en 2018 et que ta procédure, t'es convoqué à l'OFRA en 2020, par exemple. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et on te convoque en 2020, t'as quitté chez toi en 2016 ou en 2017, t'as fait 3 mois, 6 mois, 4 mois pendant ta traversée. Et tu arrives, ta procédure met du temps à te convoquer et puis on te convoque 2 ans après. C'est là qui est difficile. Il faut prouver que toi, t'as quitté chez toi en 2016, mais nous sommes en 2022. Est-ce que toujours ces mêmes problématiques, ces mêmes problèmes existent toujours dans ton pays? Quand tu arrives aujourd'hui, tu as quitté il y a 4 ans, est-ce que le problème, il existe toujours? Quand tu arrives, toujours, tu auras toujours ces traitements inhumains, tu auras toujours ces peines de mort, ou tu auras toujours, ta vie est toujours menacée dans ton pays. C'est là qu'il faut convaincre. C'est pourquoi l'Asie, c'est les 3 questions. Le motif, les raisons et aussi le pourquoi tu ne veux pas te retourner aujourd'hui. Les craintes actuelles. Ils ne demandent jamais pourquoi. Ils disent les craintes actuelles. C'est pourquoi c'est là qu'il faut convaincre. Parce que il se peut que tu donnes le motif, il est vrai. Tu donnes les persécutions, elles sont vraies. Mais les craintes actuelles n'existent pas. C'est ça qu'il faut... Il faudra que tu arrives à prouver que réellement toujours, tu as toujours ces mêmes craintes, tu as toujours ces mêmes problèmes, tu auras toujours ces mêmes persécutions, ces mêmes traitements inhumains dans ton pays, arrivé dans ton pays. Et à l'OFRA, souvent, pour moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de donner toutes tes preuves à l'OFRA. Parce que quand on est en phase de l'OFRA, il faudra penser aussi à la phase de la CNDA. Ça peut marcher, tant mieux. Si ça ne marche pas et que tu as donné toutes les preuves à l'OFRA, c'est là que beaucoup se font rejeter encore. Parce que la CNDA a le droit de prendre une décision, une ordonnance sans te convoquer. Ça arrive, beaucoup de personnes se voient rejeter à la CNDA sans être convoquées. Elles se disent, ben voilà, moi on ne m'a pas convoqué, comment ça se fait? Oui, si la CNDA a vu que le motif que l'OFRA t'a rejeté et puis tu n'as pas prouvé, tu n'as pas donné, envoyé les preuves à temps, tu n'as pas donné le récit complémentaire à temps, il prend souvent l'ordonnance et puis il te rend la décision. Ça peut arriver. C'est pourquoi devant l'OFRA, essaie de faire le mieux, de bien les convaincre par les explications bien détaillées, bien claires, bien précises. Et quand on parle de l'OFRA encore pendant l'entretien, il faudra que vous sachiez que arriver à l'entretien à l'OFRA, les Africains par exemple, on est timide, aussi on ne regarde pas, on a peur devant. Quand on fait un entretien avec une personne qu'on n'a jamais rencontrée, surtout quand on arrive ici, on est embouminé, les gens nous disent à l'OFRA, ils ne donnent pas de papier, ils ne donnent pas le statut, c'est toujours négatif. Tout ça là, tu as tous ces stress, toutes ces mauvaises idées dans ta tête. Pour toi, tu arrives là-bas, tu auras affaire avec Emmanuel Macron ou bien le Premier ministre ou bien peu importe. Là, dans ta tête, tu prends l'échec d'abord avant d'arriver en face. C'est là, il faut se dégager, il faut se défouler. Sachez que la personne qui est là n'est ni police, ni président, ni ministre. C'est juste une personne qui a besoin de comprendre les soucis, les problèmes, et puis elle prend une décision. Sachez que chez nous, en Afrique, parler avec un supérieur, par exemple, quelqu'un qui est plus âgé que toi, le respect chez nous, ne pas regarder dans les yeux ou ne pas parler... hausser le ton ou bien ne pas parler, en parler avec les gestes, pour nous en Afrique, ça c'est vu comme une impolitesse, comme un manque de respect. Mais ici, on en a vu, quand tu regardes les transcriptions ou les motifs que l'OFRA rejette les gens, ils disent il n'y a pas de gestes, il n'y a pas de détails, et il est timide, il ne regarde pas, il fait ça. C'est les reproches qui sont faites à beaucoup de personnes. Presque, je peux dire à toutes les personnes qui sont rejetées à l'OFRA. On dit, interroger a donné le pourquoi il a fait ça. La personne ne regardait pas, la personne ne faisait pas ça. Les gestes manquaient, les trucs comme ça. C'est les reproches là qu'ils nous ont faites. C'est pourquoi, quand vous arrivez, essayez de vous intégrer, de voir, de regarder. Voilà. Quand vous êtes en face, même à la préfecture, à l'OFRA, à la SPADA, à l'OFI, quand ils vous parlent, ces différents agents vous parlent avec des gestes. S'il n'y a pas de gestes pour eux, il n'y a pas de regard dans les yeux, et vous prenez du temps à répondre, vous réfléchissez pour eux, c'est pas vrai, c'est pas votre vie, c'est pas votre récit. Et ça cause beaucoup de problèmes. Vite fait, vous êtes rejeté. Et pendant l'entretien ou pendant la rédaction, la présentation, elle est très très importante, parce que la personne, quand elle prend ton récit, il faudra qu'elle te connaisse d'abord. Quand vous êtes en face, l'entrée de tous les entretiens, la personne se présente. Quand vous arrivez à l'OFRA, par exemple, la personne, l'officier se dit, bonjour madame, moi c'est monsieur tel tel, je suis l'officier de protection qui est chargé d'examiner ta procédure, ta demande. Je suis comme ça, je fais ça, l'entretien est confidentiel, il est enregistré, mais personne n'aura l'accès. Voilà ça. Il se présente pour toi, l'officier qui est devant toi. À ton tour, il te demande maintenant, c'est bien vous tel ou bien de vous présenter. C'est là que tu vois beaucoup de personnes qui se disent, moi c'est Yabi Aboubakar, je m'arrête là. La présentation doit ressortir ton nom, ton prénom, ta date de naissance, la ville de naissance, le pays de naissance, ton ethnie, ta religion, ton niveau d'études. Cette présentation doit ressortir cela. La personne, une fois que elle te demande, tu donnes tout ça, elle te note sur 10. Et si il te demande encore, l'officier te demande encore sur les informations de tes parents, souvent les gens disent oui, sachez que eux, beaucoup de oui, c'est non, c'est rejeté. On dit, ils ont une phrase que tout ce qui est énoncé spontanément est vécu par l'offre, est vu par l'offre comme vécu. Quand je te demande, monsieur, vous avez fait ça, vous me dites oui, j'ai fait ça, j'étais comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Pour eux, c'est vrai. Mais monsieur, vous m'aviez dit ou vous avez écrit dans votre récit que vous avez été, quand vous avez arrêté le 1er janvier 2021, tu dis oui, c'est pas vous. Pour eux, c'est faux. Vous avez juste inventé. Même si c'est vrai, pour eux, c'est faux. C'est pourquoi quand vous arrivez, essayez d'avoir, de prendre connaissance comment les débats sont effectués ici. Comment les entretiens se passent. Comment toi, tu dois te comporter, comment tu dois répondre. Parce que les Français, par exemple, ils aiment beaucoup poser des questions fermées, mais qui ont besoin de réponses ouvertes, larges, tout. Ils veulent des détails. Souvent, si vous regardez le rejet, c'est toujours dit, il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez de détails. On en a vu beaucoup et nos amis nous en parlent. Mais pourquoi, à ton tour, quand tu arrives là-bas, tu refais les mêmes erreurs, les mêmes fautes? C'est ça qu'il faut éviter. Après l'entretien, là, vous attendez à votre décision. La décision arrive, elle est positive, tant mieux. Là, vous prenez connaissance, comment les démarches s'effectuent, quel type de protection vous a été accordé, comment vous faites. Là, c'est bon. Mais si c'est la décision, elle est négative. Là, vous avez un mois. Mais d'abord, vous avez 15 jours à faire la demande d'aide juridictionnelle. Cette demande d'aide juridictionnelle, elle vous permet de ne pas payer l'avocat, que l'État prenne en charge les frais des avocats, de ton avocat, et puis voilà. Vous voyez, avec un avocat, ou vous pouvez le faire aussi, faire le recours par vous-même. Il n'y a pas de problème. Ils acceptent. La CNDA, ils sont très compréhensifs. Ils acceptent. Si vous n'avez pas d'avocat, ils désignent un avocat pour vous. C'est là, une fois que vous avez le contact de l'avocat, qu'il faut prendre contact avec la personne. Comme ça, préparez, essayez de comprendre pourquoi l'OFRA vous a rejeté. Tout est écrit dans la décision que l'OFRA vous a envoyé. C'est écrit, la demande d'asile présentée par telle personne est rejetée pour les motifs suivants. Là, il commence à dire, monsieur a été entendu tel jour, donné tel de nationalité, il guinéen comme ça, machin, les trucs, et interrogé à seule partie par... Il y a tous les motifs pourquoi l'OFRA vous a rejeté. Tout est écrit dans cette page. Soit, elle peut être une page, elle peut être deux pages. Elle peut être trois pages aussi. Mais tout est écrit. C'est là qu'il faut prendre connaissance. Rectifiez vos erreurs. Corrigez toutes les erreurs que vous avez commises. C'est là qu'il faut prendre connaissance. Est-ce que vous avez besoin d'apporter des preuves? Ou bien est-ce que vous avez besoin d'apporter des détails encore plus précis? Et comment vous devez apporter? Pour la CNDA, je pense que c'est la phase la plus importante que l'on prend. L'OFRA, elle, lui, il rejette beaucoup. Mais pour la CNDA, je pense que tes destins sont dans tes mains. C'est à toi de pouvoir maintenant prouver. On t'a déjà dit. C'est comme si, par exemple, un élève, ton prof te dit, moi, je prends les questions, je les prendrai dans cette leçon 2, 3, ou la leçon 1, la leçon 2, 3, point. Il t'a pas dit, il te dira pas, c'est cette partie, c'est les parties-là, les parties-là, non. Il t'a juste dit, prends, révisez ces trois leçons. Les questions seront dans ces trois leçons-là. C'est à toi maintenant d'être prêt, de bien réviser, de bien maîtriser cette leçon. Le problème encore, les gens, beaucoup de personnes écrivent le récit, mais ne comprennent pas le récit, ils parlent de quoi. Même si c'est eux qui ont écrit. Voilà. Quand ceux qui ont été à l'école, et ils comprennent souvent. Quand vous arrivez à l'école, le prof vous dit aujourd'hui, on fait la littérature africaine, par exemple. Et il prend un thème, il dit, par exemple, on va parler des Misérables. Il donne un thème. Mais là, si vous regardez le thème qu'il a pris, l'explication qui ressort dans la bouche de ton prof, tu ne verras absolument pas, c'est pas forcément dit que toutes ces explications seront dans la leçon. La leçon, elle est différente de l'explication. parce que il a bien maîtrisé le thème, il connaît bien son métier, ses cours. C'est pourquoi il arrive à bien expliquer que tu comprends réellement comment, pourquoi ils ont écrit le roman là. C'est ça qu'il faut savoir aussi, de que ça soit, que ce soit devant l'OFRA ou devant la CNDA. Et la CNDA n'est pas là de revenir en arrière, de reprendre ton récit complet, non. La CNDA, c'est juste 2-3 questions qu'ils vous posent. Juste les parties qui sont incomprises, qui ne sont pas compréhensives, et ils essaient juste d'avoir quelques idées de ce que ils jugent entre l'OFRA et toi. Voir l'OFRA vous a rejeté pour les motifs suivants. Ils regardent les parties importantes que l'OFRA vous a rejetées et ils vous demandent des explications. Si vous arrivez à bien expliquer, tant mieux. C'est là qu'il faut prendre connaissance avec les personnes, aller avoir des bonnes questions, des bonnes compréhensions, savoir voilà le motif que l'OFRA m'a rejeté. C'est à toi maintenant de jouer le jeu, de comprendre, de bien expliquer pourquoi cette leçon, ce rejet. Mais si après tu comprends même pas de quoi il parle ton récit, c'est là le problème. C'est pourquoi moi je dis souvent aussi, les gens ne comprennent pas. Expliquer et dire quelque chose sont différents. Je dis mon nom, mais j'explique comment mon nom est composé. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Voilà. L'OFRA, il se prépare à temps. La CNDA se prépare après l'OFRA. Si vous arrivez à la CNDA et que qu'on vous rejette souvent, ils vous disent encore il y a un troisième recours où vous pouvez passer en cassation. Tout ça là, je pense que ça sera maintenant inutile. Il faudra attendre que le moment, il faudra bien attendre un bon moment avant de revenir, avant de refaire un nouveau recours. Parce que vous êtes rejeté un mois et vous disiez encore de refaire un troisième recours là-bas. Je pense que pour toi-même, tu te feras rejeter. Parce que à l'OFPRA, une fois que vous n'avez pas les nouvelles éléments, par exemple, ils vous rejettent encore. Votre demande serait rejetée. Ça, c'est directement, il n'y a pas de discussion. C'est pourquoi l'OFRA, il faut le préparer. C'est difficile parce que quand vous venez d'arriver, admettons que vous arrivez, vous partez à la préfecture, relevez vos empreintes et puis on vous place directement sous la protection, la procédure normale. Vous ne connaissez pas assez de personnes, vous n'avez aucune expérience. Là, ça arrive. Vous pouvez avoir la chance, mais souvent, les personnes sont rejetées. Là, c'est compréhensible. Mais si vous arrivez et qu'on vous place en procédure Dublin, et là, vous aurez le temps de bien comprendre maintenant comment ça se passe, comment la procédure se passe. Quand vous arrivez dans n'importe quelle ville en France, après votre premier rendez-vous à la SPADA ou je ne sais pas dans quel où, et vous arrivez à la préfecture, commencez à demander les personnes avec qui vous arrivez à la préfecture en même temps ou à chercher vos courriers, comment ils font et comment ça se passe. Mais tellement qu'on est timide, qu'on a peur de demander, on se dit voilà, personne ne me dira comme ça. Mais si vous ne connaissez pas et que vous n'arrivez pas à demander, à chercher les associations qui s'occupent, parce qu'en France il y a 7 citoyennetés. Moi, je pense que c'est la seule chose que moi j'ai vu parmi les devises de la France. Liberté, égalité, liberté, fraternité. Je pense que la fraternité, elle existe en France. Elle existe en France. La liberté, je peux dire non, c'est pour les Françaises, Françaises. L'égalité, oui, je peux dire elle n'existe pas. Oui, mais la fraternité, je pense qu'elle existe. Quand vous demandez et que vous partez vers les associations, là, vous verrez que la fraternité, elle existe. Il y a des mauvais Français qui vont vous dire que la liberté, elle existe parce que vous faites... Non, c'est pas vrai. Vous ne le comprenez pas, sauf que si vous partez quelque part où on vous dit voilà ça, vous comprendrez que réellement, elle n'existe pas. L'égalité, elle n'existera jamais en Europe. Qu'elle soit en France, ils se disent que c'est le pays des droits de l'homme, mais elle n'existera jamais. Jamais, plus grand jamais. Parce que pour eux, ils sont supprimés. Mais la fraternité, là, je pense que, en tout cas à Marseille, moi, je pense qu'elle existe à Marseille. quand vous demandez, il y a des associations qui aident, qui sortent, qui font les maraudes, qui demandent, qui essaient de comprendre les problèmes, qui essaient d'accompagner, d'orienter les personnes vers des bonnes institutions, vers des bons organismes. Voilà. Mais si vous arrivez et que vous ne demandez pas, personne ne pourra venir comprendre vos problèmes. C'est à vous de jouer, de demander autour de vous. Est-ce qu'il y a des associations? Par exemple, quand vous arrivez et que vous ne demandez pas, après les 3 mois de carence, avoir la CMU, comment vous allez comprendre? Il ne faudra pas aussi vivre dans un pays, ça j'en ai vu, moi souvent je le dis, c'est pas pour se moquer, mais il ne faut pas vivre dans une ville ou dans une région. Tu demandes beaucoup de personnes à Marseille, et elles sont dans quelle région? C'est rare qu'ils te disent que ouais, nous sommes dans cette telle région, ou de te parler du département ou les différents instituts qui s'occupent. Ça, je pense que c'est un peu gauche. C'est pourquoi l'intégration, quand tu arrives dans un pays, quand tu t'intègres, ça sera le plus important. Voilà. C'est pourquoi c'est ça qui fait la différence de ceux qui réussissent. Moi, je dis souvent, c'est que c'est une question de chance, mais il y a aussi le courage et comment les personnes font les choses. Quelqu'un qui sort et qui parle, qui demande, je pense que sera différent de personnes qui vient, qui se dit voilà, moi je reste, et puis quand on me dit viens à ton rendez-vous, tu viens au rendez-vous, après tu rentres chez toi, tu cherches seulement comment te procurer, je pense que là ce serait un peu gauche. On fait une petite pause musicale et je pense qu'il ne reste pas grand chose, comme la radio c'est l'heure, mais on fait une petite pause et puis on se reprend.
Ideology. You see me, I say, Rasta children now go embrace them false philosophy. So we move in the Gideon, them a penny way. But tell them, say what? Them a done with enemy. You see me, I say, cause them now lead the people, them right. Keep the fire light. Blaze the fire through the day, through the night. Me see a generation just start get exploit. Alright? Sing, how we sing it?
Blaze the fire, so me a fib on them out king. Hey, me no in a joke. États-Unis. Ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra contrôler. On sera respecté. On pourra dialoguer. On pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Voilà, il ne nous reste pas grand chose. Comme je vous l'ai déjà, vous êtes dans votre émission Le droit des étrangers. Et voilà, on va essayer de s'entraider parce que l'asile, la procédure, elle est beaucoup compliquée, mais je pense que il faudra en parler autour de nous. Il faudra essayer de donner maximum d'informations et puis d'expliquer comment vous avez fait pour réussir et où, pourquoi vous avez échoué. Aider d'autres personnes, parce que dans la vie, il ne faudra pas seulement dire que moi je vais commettre. Il faudra aussi que nous aussi nous aidons, nous essayons d'expliquer, de mettre nos expériences au profit des autres aussi. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui mettront leur expérience à nos profits. Et aussi, nous, à notre tour, on doit mettre nos expériences, différentes expériences au profit des autres. Si vous gardez toutes vos expériences en vous, je pense que la vie, elle serait injuste à ce côté. Voilà, l'asile marche toujours avec les surprises, avec beaucoup de stress. Il demande beaucoup de courage, de patience et d'avoir la tranquillité. Parfois, ça peut arriver si vous avez une décision négative ou pour vous c'est foutu. Vous pensez que c'est foutu, mais on peut rattraper le coup. Et aussi, il y a plusieurs manières d'avoir une régularité en Europe. Si l'asile il ne marchera pas, ça ne veut pas dire que c'est une fin du monde, que c'est la fin du monde. Vous pouvez aussi avoir d'autres régularités. Par exemple, beaucoup se posent la question. En France, 5 ans, vous avez la possibilité d'avoir la régularisation. Mais ces 5 ans ne dit pas que, sauf qu'après l'asile, que les 5 ans commencent à compter. Une fois que vous avez mis pied en France, sachez que les 5 ans, le délai commence à compter. Si vous finissez l'asile et que ça ne marche pas en 2 ans, sachez qu'il vous reste 3 ans. Mais il y a des conditions qui peuvent vous être demandées, imposées, et si vous remplissez toutes ces conditions, il n'y a pas de problème. C'est comme si vous avez le statut de refusé, il n'y a aucune condition d'avoir la nationalité française. Il demande juste peut-être d'avoir le niveau de français. Il faudra avoir le niveau de français et puis être assimilé aux français, aux cultures françaises. Connaître les différentes l'histoire de la France en un mot. Et aussi les différentes règles. Pas tout le monde, même les Français, ils ne maîtrisent pas toutes les lois du pays, mais il faudra juste avoir une vision française. Voilà. C'est pourquoi, quand vous arrivez, si vous intégrez, plutôt que vous intégrez, plutôt que vous aurez la chance, si vous avez le statut de refusé, d'avoir la nationalité française, il n'y a aucune condition qui est imposée, si vous avez la protection subsidiaire, la durée de 5 ans s'impose, mais cette durée de 5 ans, ce délai de 5 ans commence à compter depuis que vous étiez en France. Non, il commence à compter depuis que vous êtes en règle pour la nationalité. Mais si vous n'avez pas le statut, que vous n'avez pas la protection, le délai de 5 ans commence à compter depuis que vous êtes arrivé en France. Et voilà. On aura d'autres sujets aussi à en parler dans les jours à venir, peu importe pour l'instant. Voilà, on essaie d'aller le plus lentement que possible afin que les gens puissent prendre des informations intéressantes qui leur concernent. Et puis voilà. On se dit.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde.